VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mercredi 4 janvier 2023. Avec vous Eric Manilakiza au micro, voici d'abord le sommaire. Ici aux États-Unis, les élus de la Chambre des représentants reprennent leur vote pour élire un président après avoir échoué la veille, une première depuis 100 ans. En Somalie, au moins 19 morts dans un double attentat aujourd'hui dans le centre du pays. Le président togolais est à Bamako pour une visite de quelques heures. Fort Niassimbe assure la médiation dans l'affaire des 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires détenus au Mali depuis juillet dernier. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale du braille.
J'avais un seul enseignant qui prenait toute la journée pour moi.
Nous irons au Gabon pour découvrir ce jeune journaliste malvoyant de la première chaîne publique du pays. En économie, le Grand Salon des Technologies CES 2023 débute cette semaine à Las Vegas aux États-Unis. Vous suivrez également les sports avec Yacouba Ouedraogo, mais d'abord le journal. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants est dans l'impasse 24 heures après le début de la 118e législature. Les républicains majoritaires n'ont pas réussi à élire le chef de cette institution qui est aussi la troisième personnalité de l'État. Et ceci après trois rounds de vote. Abdourahman Dia, la Chambre de représentants vient de débuter son vote.
Voilà, ce sera donc le quatrième round. Hein. Il faut dire que les élus se retrouvent depuis 12 heures locales, 17 heures GMT, ce mercredi, pour tenter une nouvelle fois d'élire leur chef, Kevin McCarthy, qui a bénéficié du soutien de l'ancien président Donald Trump, n'arrive toujours pas à convaincre tous les républicains de soutenir sa candidature. Ce mercredi encore, Donald Trump a clairement appelé les élus républicains à soutenir la candidature de Kevin McCarthy. Et pourtant, la vingtaine d'élus républicains qui empêchent à McCarthy d'accéder au perchoir sont des partisans de l'ancien président. Ils lui reprochent d'être trop centriste. Son sort est donc plus qu'incertain aujourd'hui encore. Il lui faut, Eric, il faut le dire, 218 votes. Et il ne peut pas perdre plus de 4 votes républicains. Le président Joe Biden, lui, a qualifié d'embarrassante la difficulté des républicains à se mettre d'accord pour élire le speaker de la Chambre, comme on l'appelle ici aux États-Unis. Le reste du monde observe ce qui se passe au Congrès, a déclaré le président américain à la presse, au moment donc de se déplacer dans le Kentucky. Signalons enfin que la Chambre doit forcément élire son président avant de pouvoir poursuivre ses travaux.
Le vote est en cours. On saura le résultat dans quelques minutes. Pour sa part, vous le disiez tout à l'heure, Joe Biden s'est montré serein lors de son départ pour Covington dans le Kentucky, laissant derrière lui des républicains qui se chamaillent pour savoir qui ils veulent comme président de la Chambre des représentants, Idriss Fall.
Le président effectue aujourd'hui un voyage dans le Kentucky pour un important projet de remplacement d'un pont dans cet État profondément républicain. Quelque 1,6 milliard de dollars sont consacrés à la réparation du pont Brent Spence entre Cincinnati et le nord du Kentucky. Les fonds proviennent d'un paquet historique de dépenses d'infrastructures nationales de 1 000 milliards de dollars adopté en 2021 avec un rare soutien républicain. Dans un geste presque inédit, M. Biden doit passer la journée avec le sénateur républicain le plus ancien, Mitch McConnell, un habitant du Kentucky. Interrogé sur ce voyage, M. Biden a minimisé l'impact de sa relation d'ennemi juré avec Mitch McConnell. Il a insisté sur le fait que le motif de ce voyage était assez simple. C'est un pont géant et c'est beaucoup d'argent. Et les ponts ne font pas que traverser les divisions, ils peuvent aussi fournir des slogans de campagne.
Merci Idriss Fall pour toutes ces précisions. Abdourahman Dia, on n'a pas toujours le résultat et le vote est en cours.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Somalie, au moins 19 personnes ont été tuées ce mercredi dans le centre du pays dans un double attentat. La voiture piégée revendiquée par les islamistes Shebab. Le point avec Rosine Mounedzer.
L'attaque a été menée dans la matinée à Mahas, une localité de la province de Hiran, où a débuté il y a plusieurs mois une vaste offensive contre les Shebab, menée par des milices et l'armée somalienne. 19 personnes, dont des membres des forces de sécurité et des civils, sont mortes dans les explosions. Un précédent bilan faisait état de 9 morts. Les Shebab ont revendiqué l'attaque. Ils ont fait exploser 2 voitures près d'une base militaire à Mahas, à environ 300 km de Mogadiscio, a déclaré Mohamed Moualim Adan, commandant d'une milice locale alliée du pouvoir. Les Shebab combattent depuis 2007 le gouvernement fédéral qui est soutenu par les soldats de la mission de l'Union africaine en Somalie. Ils ont été chassés des principales villes du pays, mais restent solidement implantés dans de vastes zones rurales.
Le président togolais Faure Gnassingbé, qui assure la médiation dans l'affaire des 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires et détenus au Mali depuis juillet, est arrivé ce mercredi à Bamako. Il a été accueilli par le président Assimi Goïta, la correspondance de la Missa Sangaré.
Il est arrivé à mi-journée. Le médiateur a été accueilli à l'aéroport international Modibo Keïta par le président de la transition malienne, colonel Assimi Goïta. Les deux chefs d'État ont eu une brève entrevue avant de regagner Koulouba pour une discussion plus large sur le cas des 46 militaires ivoiriens. Cette visite intervient quelques jours seulement après la condamnation de ces militaires à 20 ans de prison par une cour d'assises spéciale installée à cet effet. Cette nouvelle visite du principal médiateur donne un nouvel espoir pour la libération des soldats ivoiriens. Pour l'instant, aucune information n'a filtré sur les tête-à-tête des deux présidents. La Missa Sangaré, Bamako, pour VOA Afrique.
Un ancien ministre tunisien de l'Environnement a été condamné à 3 ans de prison pour son rôle dans une affaire d'importation illégale de déchets ménagers d'Italie. Mustapha Rahoui avait été démis de ses fonctions et arrêté en décembre 2020 avec plusieurs responsables de son ministère dans le cadre d'une enquête sur cette affaire qui a fait scandale en Tunisie. Un ancien cadre du ministère s'est vu infliger une peine de 10 ans de prison et un autre suspect en fuite a été condamné par contumace à 15 ans de prison. 6 autres ont été acquittés. Reporters sans frontières a indiqué ce mercredi avoir dénoncé auprès de l'ONU l'acharnement judiciaire subi par le patron de presse algérien Ihsan El Kadi. RSF s'élève contre une tentative de réduire au silence les derniers médias indépendants en Algérie. Directeur de la station algérienne Radio M et du site d'information Maghreb émergent, Monsieur El Kadi a été placé en détention provisoire le 29 décembre dans le cadre d'une enquête pour collecte illégale de fonds et atteinte présumée à la sûreté de l'État après 4 jours de garde à vue. La Russie a rapporté ce mercredi un bilan plus lourd de la frappe qui a visé dans la nuit du Nouvel An des soldats russes à Makivka dans l'est de l'Ukraine qui grimpe à 89 morts. Un général russe indique dans un message vidéo que la cause principale de la frappe est l'utilisation massive par le personnel de téléphone portable malgré l'interdiction de le faire, ce qui a permis aux forces ukrainiennes de géolocaliser cette concentration de soldats russes. Monsieur Sevriukov a assuré que les mesures nécessaires sont prises pour éviter de tels incidents tragiques à l'avenir et que les responsables seront tenus de rendre des comptes. Il s'agit du plus lourd bilan en une seule attaque admise par Moscou depuis le début de l'offensive en février. L'annonce de ce bilan n'a pas manqué de susciter de nouvelles critiques envers le commandement militaire russe, déjà fustigé lundi et mardi pour son incompétence par des correspondants de guerre et commentateurs russes. Le gouvernement français a interdit ce mercredi jusqu'à fin janvier la vente en ligne de produits à base de paracétamol dans un contexte persistant de difficultés d'approvisionnement pour ce médicament antidouleur d'usage courant. L'imposition de tests Covid aux voyageurs en provenance de Chine par un nombre croissant de pays constitue une réponse impulsive et inefficace, a regretté ce mercredi l'IATA, principal représentant des compagnies aériennes.
aérienne mondiale. Il est extrêmement décevant de voir ce rétablissement impulsif de mesures qui se sont avérées inefficaces au cours des trois dernières années, alors que le virus circule déjà largement à l'intérieur de leurs frontières, a estimé Miata.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco avec Lionel Runamira Gahima.
Le Grand Salon des Technologies CES 2023 a débuté cette semaine à Las Vegas. Les participants peuvent y découvrir les toutes dernières technologies et commander une course Uber dans une voiture sans chauffeur. Malgré des milliards de dollars d'investissement, les véhicules autonomes tardent à faire une percée sur le marché. Motionnel, un groupe soutenu par Hyundai, propose depuis décembre des trajets autonomes avec Uber à Las Vegas, mais avec pour l'instant un opérateur dans le véhicule, au cas où. Une autre société Cruise, chapeautée par General Motors, a été la première à obtenir en juin l'autorisation de transporter des passagers à bord et des robots-taxis à San Francisco, mais uniquement la nuit. Selon les spécialistes, les logiciels de conduite autonome vont s'améliorer progressivement. Les revenus pétroliers libyens ont augmenté pour atteindre 105 milliards de dollars de dinars, soit 22,01 milliards de dollars contre 103 milliards de dinars l'année précédente, a annoncé la Banque centrale libyenne. La banque dit avoir alloué 34,4 millions de dinars à la compagnie pétrolière libyenne dans le cadre d'un arrangement financier temporaire d'urgence. Les États-Unis font pression pour une gestion plus transparente des revenus pétroliers libyens. Les Égyptiens continuent de faire face à l'inflation qui a atteint 18,7% et à la pénurie des devises. Le pays importe la majorité des biens de consommation, une situation rendue difficile par une augmentation de 8% des taux d'intérêt. Du coup, on assiste à une flambée des prix sur le marché, y compris pour les produits subventionnés par le gouvernement au profit des couches défavorisées.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le Cap Vert rebaptise l'un de ses stades, Stade Pelé.
Oui, le pays des requins bleus a rebaptisé Stade Pelé, l'enceinte jusque-là appelée Stade National. Le Cap Vert devient ainsi le premier pays à répondre à l'appel du président de la FIFA, Gianni Infantino, suggérant à ses 211 fédérations membres de rendre hommage au roi Pelé en rebaptisant des stades à son nom. Le nouveau stade Pelé du Cap Vert, situé à Praia, sur l'île principale de Santiago, compte 15 000 places. Ce changement de nom a été annoncé par le premier ministre capverdien, José Ulises Correa de Silva. Il évoque une histoire et une culture qui vont de pair entre le Brésil et le Cap Vert. Pour saluer la mémoire du roi Pelé, Infantino a annoncé lundi que la FIFA allait demander à tous ses pays membres de baptiser un stade au nom de Pelé. Nous allons donner l'exemple en renommant le terrain situé dans notre siège Stade Pelé, FIFA Zurich, a souligné le président de la FIFA.
Et Cristiano Ronaldo a été présenté hier dans son nouveau club d'Al Nassr.
La superstar du football mondial a affirmé que son arrivée au club saoudien ne marque pas la fin de sa carrière, mais une nouvelle étape dans sa chasse au record après avoir tout gagné en Europe. Cristiano Ronaldo.
Pour moi, ce n'est pas la fin de ma carrière de venir en Arabie saoudite. Je voulais un changement et, pour être honnête, je ne me soucie pas de ce que disent les gens. J'ai pris ma décision et j'ai la responsabilité de changer cela. Mais moi, je suis vraiment très heureux d'être ici.
Le quintuple Ballon d'Or qui a rompu avec Manchester United s'est engagé jusqu'en juin 2025 pour une somme estimée à 200 millions d'euros. Au sein du club jaune et bleu, Ronaldo sera dirigé par le français Rudy Garcia et côtoiera l'attaquant camerounais Vincent Aboubakar.
Ici aux États-Unis, le monde du football américain est sous le choc depuis lundi.
L'émotion et l'inquiétude demeurent vives autour de Damar Hamlin. Le joueur de NFL des Buffalo Bills est toujours hospitalisé dans un état critique après un arrêt cardiaque consécutif à un terrible choc subi lundi pendant un match du championnat de football américain. Selon la franchise de l'État de New York, le joueur est en soins intensifs au centre médical de l'Université de Cincinnati. Au cours du premier quart-temps contre les Bengals de Cincinnati, l'équipe hôte, Hamlin, 24 ans, s'est levée après avoir effectué un plaquage, puis s'est effondrée. Après avoir vu son rythme cardiaque rétabli sur le terrain, Hamlin a été transporté en ambulance vers un hôpital de Cincinnati. Dans une déclaration publiée sur leur compte Twitter, les Bills ont indiqué que Hamlin a passé la nuit de lundi à mardi dans l'unité de soins intensifs du centre médical de l'université de Cincinnati où il se trouve toujours.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yakuba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakiza avec vous. Place au dossier du jour. Aux États-Unis, la Chambre des représentants n'a pas réussi à choisir son président. Un groupe d'élus conservateurs a continué à voter contre la candidature de leur collègue et républicain Kevin McCarthy pour diriger la 118e session du Congrès. La correspondante de VOA au Congrès, Catherine Gibson, fait le point, le récit avec Lionel Gahim.
Pour la première fois en 100 ans, les législateurs de la Chambre des représentants n'ont pas élu leur président à l'issue d'une série de scrutins, même si les républicains disposent de la majorité à la Chambre basse. Elise Stefanik, représentante républicaine.
Les gens à travers cette grande nation ont dit haut et fort qu'ils veulent une nouvelle direction. Ils veulent une nouvelle direction pour arrêter ce programme radical d'extrême gauche, pour tenir Joe Biden pour responsable et pour sauver les États-Unis d'Amérique.
Après 3 jours et plusieurs heures de vote, le leader républicain Kevin McCarthy n'a pas réussi à obtenir les 218 voix, soit la majorité simple de 234 membres de la Chambre des représentants pour être élu. Les républicains ont une courte avance dans la nouvelle Chambre des représentants, ce qui signifie que McCarthy ne peut perdre que 4 voix et être élu à la présidence. Pas moins de 20 républicains conservateurs se sont opposés à sa candidature. Scott Perry, représentant républicain.
Le type qui veut devenir président de la Chambre des représentants affirme que Washington est brisé. Il a dit dans l'une de ses plus récentes correspondances. Il est intéressant de noter que pendant les 14 années où il a été à la tête du parti, il n'a pratiquement rien fait pour changer les choses.
Et il a préféré voter pour le républicain conservateur Jim Jordan de l'Ohio. Matt Gaetz, un autre élu républicain.
Peut-être que la bonne personne pour le poste de président de la Chambre n'est pas quelqu'un qui le veut vraiment.
Par contre, les 212 démocrates de la Chambre ont voté pour le leader démocrate entrant, Hakeem Jeffries, au poste de président de la Chambre. Pete Aguilar, un élu démocrate.
Madame la greffière, un latino nomme à la présidence de cette chambre un noir pour la première fois de notre histoire.
Mais Jeffries et McCarthy ont été incapables d'obtenir les 218 voix nécessaires pour occuper le perchoir. Les législateurs ne peuvent pas prêter serment et aucune activité législative ou de commission ne peut avoir lieu tant qu'un président n'est pas choisi. L'un des obstacles de M. McCarthy est la perception par certains membres de l'aile droite de son parti qui n'est pas suffisamment loyal envers l'ancien président Donald Trump, qui a encore appelé les républicains d'extrême droite à mettre fin à leur blocage. La session de la Chambre a été ajournée mardi et des nouveaux scrutins devraient se tenir ce mercredi jusqu'à ce que quelqu'un émerge avec une majorité. Il n'est pas exclu qu'un nouveau candidat républicain puisse se manifester.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'installation du 118e congrès des États-Unis. C'est un congrès divisé avec un Sénat contrôlé par les démocrates et une chambre des représentants dirigée par les républicains, alors qu'on est à 2 ans de la présidentielle de 2024. Ce qui laisse entrevoir de chaudes empoignades pour les mois à venir dans ce contexte de pré-campagne. De son côté, le président Joe Biden a lancé une offensive de charme en direction de certains républicains modérés pour éviter le blocage de son agenda au Congrès. Comment se présente cette 118e législature? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Certains Congolais contestent l'arrivée de troupes sud-soudanaises en République démocratique du Congo pour aider à ramener la paix dans l'est du pays. Pour eux, il est inconcevable qu'une armée d'un pays en crise sécuritaire vienne imposer la paix aux autres. Davantage avec Zanem Neti Zaidi, notre correspondant dans la région.
Pour certains habitants, il n'y a aucune raison qui puisse expliquer l'arrivée de cette armée sud-soudanaise en RDC. Moïse Hangi souligne que les différentes violations des droits de l'homme pour lesquelles les ex-rebelles sud-soudanais se sont rendus célèbres lorsqu'ils étaient au camp de la MONUSCO n'ont jamais quitté la mémoire.
Le Sud-Soudan, c'est en tout cas parmi les pays qui ont les armées les plus faibles au monde. Et même chez eux, ils sont instables. Le Sud-Soudan, ils sont en guerre et on ne comprend pas comment est-ce qu'un tel pays peut dire être prêt à vouloir nous aider. En plus, les rebelles sud-soudanais étaient cantonnés dans un site de la MONUSCO au Nord Kivu. Certains habitants, certainement, n'étaient pas favorables certainement à ces troupes. Donc pour nous, nous désapprouvons ce déploiement et nous pensons que les Sud-Soudanais n'ont rien de spécial pour nous aider.
Pour Chou Bungesso, habitant de Goma, le gouvernement doit cesser de recourir aux forces étrangères et mettre en place un mécanisme de bonne gestion de l'armée congolaise.
Que les militaires qui sont payés ne sont pas du tout bien encadrés. Il fallait investir dans le FRDC pour aussi peut-être faire recours à d'autres militaires. Mais il fallait finir d'abord l'encadrement de nos militaires. Mais si la guerre ne se termine pas, peut-être dans une année, dans trois ans, ces gens vont continuer à être ici. Ils vont nous dominer comme d'autres peuples qui ont commencé à dominer la RDC. Et voilà exactement, nous ne sommes pas d'accord avec l'arrivée de ce militaire.
Le contrôle de l'intégrité du territoire national reste la mission principale d'une armée nationale, estime Evariste Iragui, analyste politique.
Déjà, ce sont des zones qui ne seront pas contrôlées par les forces plus démocratiques du Congo. Or, en RDC, nous avons une force nationale qui a comme mission essentielle et principale le fait d'imposer, d'avoir le contrôle de l'ensemble des territoires les plus démocratiques du Congo. Or, actuellement, nous avons de passer les plus démocratiques du Congo qui ne sont pas contrôlés par nos forces, mais qui sont contrôlés par des forces étrangères. À tout moment, dépendamment de l'accord ou des accords qui peut y avoir entre le gouvernement congolais et le force armée du M23, eh bien, ces forces peuvent facilement venir réoccuper ces zones qu'ils ont libérées comme zone tampon parce que vous avez déjà une force régionale qui peut ne pas avoir le même dévouement que peut avoir le force gouvernementale.
Le Sud-Soudan a déclaré qu'il va envoyer 750 soldats. Ces soldats ont suivi une formation de 6 mois selon Djouba. Ils seront intégrés à la force régionale mise en place sous l'égide du Kenya pour pacifier la partie est du pays. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Les États-Unis ont retiré le Burkina Faso du programme de préférence commerciale de la AGOA pour non-respect des exigences et du statut de ce programme. Le bureau du représentant américain au commerce affirme que l'administration Biden est préoccupée par le changement anticonstitutionnel de gouvernement. La loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, en abrégé AGOA, offre aux pays d'Afrique subsaharienne un accès en franchise de droit aux États-Unis s'ils remplissent certaines conditions comme le pluralisme politique. Yacouba Ouedraogo a joint à Charlotte, en Caroline du Nord, Daniel Anogo, président du African Investment Corporation, un organisme qui fait la promotion des investissements sur le continent africain.
L'impact, ça va être sur les autres agences aussi, qui sont les agences fédérales des États-Unis, des Amériques. Par exemple, les critères qu'ils ont utilisés pour accepter que le Burkina participe au programme d'AGOA, ce sont les mêmes critères qu'ils vont utiliser pour les autres programmes comme le DFC, USAID, et le numéro un critère, c'est la bonne gouvernance. Donc ce programme va avoir un impact sur toutes les autres agences, et c'est ça qui va être un peu troublant pour Burkina.
Est-ce qu'il faut, justement, le Burkina doit s'attendre à avoir les aides provenant des autres agences américaines, comme vous les avez citées, par exemple USAID, être suspendues?
Je pense qu'ils vont suspendre les nouveaux, en fait. C'est ce que je vois. Ils sont bien engagés, USAID est bien engagé en Burkina. MCC, ils ont signé 2 compacts avec le pays Burkina. Les autres agences comme USAID, MCC, même DFC, ils vont plus regarder Burkina comme avant. à cause de cette suspension.
Parlant de cette question de l'AGOA, est-ce que les pays concernés en bénéficient réellement? Est-ce qu'ils arrivent à exporter? Des pays comme le Burkina arrivent à exporter vers les États-Unis?
Disons, en 2019, il y avait 70 000 dollars de produits, c'est-à-dire de trade entre les deux pays. La législation, ça vous est à amener les produits aux États-Unis sans payer la douane. Mais si vous n'avez pas trouvé un marché et si vous n'avez pas produit assez pour le marché américain, vous n'allez pas avoir des bénéfices. Donc, les pays comme Burkina, ils n'ont pas beaucoup de bénéfices, mais il y a certains pays comme l'île Maurice qui ont beaucoup de bénéfices. Par exemple, sur le textile, en île Maurice, ils ont réussi à travailler la législation d'AGOA, mais ils ont fait le travail qui est de trouver le marché aux États-Unis, et c'est pour ça qu'ils ont les bénéfices. Mais la plupart des pays n'ont pas vraiment eu les bénéfices de l'AGOA parce qu'ils ne produisent pas, mais aussi ils n'ont pas trouvé un marché ou fait la recherche pour trouver un marché pour leurs produits.
Il y a beaucoup qui disent que ce programme-là profite plus aux États-Unis, qui investissent aussi facilement dans les pays concernés.
Oui, mais par exemple, des pays qui produisent le pétrole. Le pétrole va rentrer aux États-Unis sans douane. Donc, les Américains vont avoir le bénéfice de ça. Mais vous ne pouvez pas comparer le pétrole et les mangues.
Daniel Anogo, président du African Investment Corporation.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La journée mondiale du braille est célébrée ce 4 janvier. Outil indispensable et universel pour les aveugles et les malvoyants, le braille est une forme d'écriture qui fournit une représentation tactile des symboles alphabétiques et numériques bleus permettant de lire les mêmes livres et périodiques imprimés que ceux disponibles en version texte. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze, nous fait découvrir dans ce reportage un jeune journaliste malvoyant de la première chaîne publique du Gabon. Son nom, Charles Ogola, suivant son portrait.
Pour Charles, la trentaine révolue, les limites sont là où on se les fixe. Il sait de quoi il parle, l'air débonnaire. Le journaliste qui rejoint ses collègues en salle de rédaction travaille pourtant avec un handicap visuel. Atteint de cataracte dès l'âge de 6 ans, Charles étudie du primaire au lycée presque dans les mêmes conditions que les enfants valides.
J'avais un seul enseignant qui prenait toute la journée pour moi. Au lycée, c'est difficile parce qu'il y a plusieurs professeurs. Donc c'était compliqué. D'où mon intégration automatiquement à la Fondation Horizon Nouveau où je vais réapprendre une écriture, le braille. C'était un traumatisme psychologique et mental.
Un traumatisme psychologique que le jeune homme a dû surmonter au fil du temps. Après l'obtention de son baccalauréat série A, qui lui ouvre les portes de l'école européenne de communication de Bruxelles en Belgique, Charles décrochera un master 2 en communication, option information et relations publiques. Sur avis de médecin, il a abandonné le braille au profit du numérique.
Dans la formation des malvoyants, quand vous arrivez à un stade, on vérifie votre quota de vision. Si celui-ci vous permet encore de lire, on vous met automatiquement en numérique. Donc avec une tablette comme vous avez vu ici, avec des formats agrandis, pour vous permettre encore d'utiliser la vision. Maintenant, le braille reste accessoire pour des recherches.
De la rédaction en passant par le montage des reportages.
Le roi Pelé s'en est allé.
Ou des directs sur les plateaux du média public gabonais, le chroniqueur sportif poursuit son challenge en développant plusieurs aptitudes, dont celle de la mémorisation.
Bonjour Charles.
Bonjour Grace. Ça nous demande deux fois plus d'efforts, deux fois plus de curiosité. Maintenant, il y a des limites. Voilà. Par exemple, sur une feuille, là, je ne pourrais pas lire sans lunettes du tout. Mais comme ce n'est pas mon domaine et ça ne m'intéresse pas, tout c'est sur ma tablette.
Concilier handicap et travail est parfois compliqué. Sans assistant socio-professionnel, Charles doit économiser plus de 2000 dollars américains pour s'offrir une nouvelle paire de lunettes optiques. Une véritable fortune pour ce fonctionnaire moyen de l'État gabonais. Ismaël Obiangze pour VOA Afrique, Libreville.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Georges et Léonard Sagno pour la mise en onde. Merci également à Lionel Lunanira Gahima de la production pour la réalisation de cette édition. Et merci à toute l'équipe de rédaction, au micro Eric Manerakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.